Voilà. Alors, ben, je suis heureux de vous rencontrer. Oui, Père Abbé, bon, effectivement, m'a dit que vous étiez un groupe fort sympathique. Et auparavant, il y avait en plus notre abbé émérite et maintenant défunt qui a aussi rencontré plusieurs années de suite votre groupe. Donc, je suis vraiment un tout petit, mais je suis, comme on dit, un nain juché sur des épaules de géant. Enfin, c'est une image de la tradition, en fait. Notamment monastique. Et alors, donc là, on dispose, je parle pendant 1 heure, en gros, et puis après, il y aura des questions, si j'ai bien compris. Alors, je me présente brièvement, donc je suis le père Frédéric Perruta. Alors, j'ai 51 ans. Je suis entré à 25 ans ici, suite à des études d'abord d'ingénieur, et j'ai travaillé 2 ans. Et en fait, effectivement, mes études à Paris, et par la suite, j'étais effectivement dans un chemin de retrouvailles de ma foi, de mon enfance, mais avec une dimension intellectuelle aussi, puisque à Paris, j'ai suivi les cours du CER, c'est le Centre d'éducation religieuse, donc ça donne un cours de philosophie, doctrine sociale et théologie et vie spirituelle sur 3 ans pour des laïcs, donc c'est le samedi. Enfin, et voilà. Et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et dans le même temps, depuis Paris, on peut assez facilement aller dans une abbaye, comme vous le faites. Et donc j'avais eu l'occasion aussi d'aller à Saint-Benoît-sur-Loire. Et là, je suis dit, oh là là, c'est vraiment bien. Et donc ça m'a donné l'idée d'être moine. Voilà, parce qu'auparavant, quand j'étais enfant, alors effectivement, dans ma famille, je ne connaissais pas de religieux, ni dans la famille, ni autour, puisqu'on allait à la paroisse, on était pratiquant, en effet. Alors le curé, ben, on savait que le curé n'était pas marié parce qu'il était marié avec le bon Dieu. Voilà, donc, ah bon, tiens. Mais c'est tout, je n'avais pas l'idée de la vie religieuse et en particulier de la vie monastique, sauf donc les sœurs qu'on voyait dans la rue à l'époque assez souvent, les bonnes sœurs. Bon, elles aussi sont mariées avec le bon Dieu, bon, d'accord, mais ça ne m'interpellait pas particulièrement. Par contre, donc. Tout est revenu d'un seul coup, et quand j'ai vu les moines là, de Saint-Benoît-sur-Loire, entre autres, et puis j'ai lu des choses sur les chartreux, enfin bref, donc il y a eu tout d'un coup un certain attrait qui s'est fait jour, et j'ai été à ce moment-là accompagné par un dominicain, alors c'est aussi un peu un moine, alors on verra la distinction, mais donc tout ça, voilà, c'était nouveau et ça m'attirait beaucoup, et tout ça a débouché sur ma candidature ici. À Saint-Vandrille. Alors pourquoi Saint-Vandrille? Ben c'est, moi je suis de Nancy. Là-bas, il n'y a pas de monastère dans l'Est. Il y en a très peu. Il y en a encore un qui vient de fermer, mais c'était pour des sœurs, des moniales. Donc ça explique aussi pourquoi je connaissais pas la vie monastique. Et alors, par contre, à Paris, donc un prêtre m'a indiqué ici Saint-Vandrille comme étant une communauté fervente avec un abbé. Alors c'est encore le prédécesseur du prédécesseur qui était un sage. Rien que ce mot-là. C'est là qu'il faut que j'aille, en gros, quoi. Et voilà. Alors, depuis que je suis ici, ben, donc, j'ai été très longtemps au noviciat parce que on a normalement 4 années qu'on passe au noviciat, c'est-à-dire dans un lieu. Enfin, on est dans un groupe de moines en formation sous la direction du père maître et qui est assisté du père zélateur. Et puis, alors, il y a les novices qui franchissent plusieurs étapes, mais en restant toujours dans ce groupe qui a une certaine clôture vis-à-vis de la communauté elle-même. Bon, ils sont un petit peu séparés de la communauté, donc ça fait un petit groupe. Et alors, je dis que j'y suis resté longtemps parce qu'en fait, j'y suis resté 4 ans, mais après 5 ans dans la communauté, je suis revenu en tant que zélateur et ensuite en tant que père maître. Donc, je suis le maître des novices, là, et nous avons un novice en formation actuellement. Mais voilà, c'est toujours un peu au compte-gouttes. Il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais quand je suis rentré, il y en avait une dizaine. Alors bon. Et je suis aussi maître de chœur, c'est-à-dire donc le chant grégorien. Et aussi sous-prieur. Alors ça, c'est parce que le père abbé a un prieur avec lequel il partage beaucoup de soucis et donc qui l'aide à mettre en place son gouvernement, quoi. Et puis alors il y a un sous-prieur qui lui est plutôt là en roue de secours, quoi. Voilà, ça c'est un peu la hiérarchie du monastère. Il y a des moines qui ont certaines charges, comme le célérier. Alors célérier, c'est l'économe en fait, parce qu'il avait le cellier, il a les clés les celliers où il y a le vin, il y a la nourriture. Bon, mais en fait, il s'occupe aussi des travaux, il a une charge très lourde. Puisqu'on a aussi une petite entreprise, vous avez vu, donc la bière peut-être. Ça, si vous l'avez bu.
Non,
non, bon. Il faut. Donc, ça, c'est un autre aspect, donc l'aspect de la subsistance. Donc, maintenant, je crois que j'ai assez parlé de ma personne, mais enfin, quand un moine parle même de lui-même, c'est quand même toute la communauté qui est en cause. Hein. Donc, on est donc des moines cénobites, c'est veut dire des moines qui mènent la vie commune. Hein, et voilà. Et donc, ça veut dire qu'on n'est jamais en somme tout seul. C'est comme, finalement comme une famille où, si vous parlez au mari, vous parlez aussi. Enfin, sous-entendu, l'épouse n'est pas loin, ou les enfants, et ainsi de suite. Donc là, c'est un peu la même chose. Alors maintenant, un autre point, c'est que donc, finalement, au noviciat, on apprend l'histoire monastique. Donc c'est pour ça, ce que je vais vous dire, ça va être un peu un condensé de ce que je transmets aux novices du point de vue de l'histoire monastique. Et aussi, j'ai eu une autre occasion de synthétiser ce que je donne aux novices, c'est parce que pendant l'été, depuis maintenant 20 ans, on a des jeunes qui viennent faire la visite guidée. Enfin, c'est-à-dire que c'est eux qui sont guides, des touristes. Et donc ça, à chaque fois, chaque année, je recommence, je leur explique l'histoire monastique pour qu'ils aient une vue d'ensemble. Et aussi, bien sûr, la règle de Saint-Benoît, qui se situe à un moment particulier de cette histoire monastique, et puis qui ensuite, en Occident, c'est-à-dire dans la partie latine de l'Église chrétienne, c'est Saint-Benoît qui s'est imposé ou qui a été imposé comme règle à tous les, on les appelle du coup les bénédictins, donc tous les moines cénobites. Alors maintenant, on va revenir aux origines. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien faire, c'est un retour aux sources à chaque fois, par la pensée. C'est-à-dire donc, quels sont les débuts, les origines, d'abord lointaines et puis ensuite immédiates de la vie monastique chrétienne. Alors il faut bien dire chrétienne, parce que alors, si vous faites le tour des religions du monde, vous avez déjà sans doute remarqué, ou vous attendez en tout cas à avoir des cours sur le monachisme bouddhiste en particulier. Donc Don Massin, qui a parlé à votre groupe les années précédentes, était un spécialiste du bouddhisme, je ne le suis pas. Mais bon, il m'a transmis une certaine sympathie pour ces gens-là, pour l'Asie et pour... Mais bon, je serais quand même incapable. Et en plus, je dirais que ce n'est pas le sujet parce que le terme moine, là, certes, il y a beaucoup de points communs. Il y a un dialogue intermonastique qui existe, qui est très fructueux, très riche. Mais il y a aussi une énorme différence dans la mesure où le monachisme se fonde sur le Christ. Bon, et effectivement, le Christ en tant qu'étant Dieu, homme, ressuscité. Donc tout ça, c'est indispensable, en fait, pour être moine chrétien. Donc, bon, alors, les bouddhistes n'ont pas eu cette approche-là. Ils ont le Bouddha, en effet, mais... Bon, alors après, je ne vais pas m'aventurer plus loin dans la description. Mais en tout cas, il y a cette différence fondamentale. Alors après, tout ce qui est commun, c'est quand même l'aspect humain, psychologique, enfin, qu'eux ont poussé fort loin. Mais quand même, les moines chrétiens ont aussi beaucoup investigué les tréfonds, on va dire, de la constitution de la personne humaine, en particulier, ils ne disaient pas le subconscient, mais ils parlent plutôt des passions ou des démons, des choses comme ça, qui sont dans l'homme ou autour de lui. Mais c'est vrai que les moines bouddhistes vont fort loin dans cette direction-là. Alors, si on veut aller aux origines, du coup, ce qui est plus pertinent, c'est de regarder l'origine hébraïque du monachisme chrétien, puisque donc c'est un pape Pie XI qui a dit que les chrétiens étaient tous des sémites spirituels, donc les moines aussi, on peut dire. Hein. Alors, on peut quand même dire que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas... Enfin, Israël, la religion juive, n'a pas vraiment de monachisme. Alors peut-être vous avez entendu parler des découvertes faites au XXe siècle de Qumran. Donc à ce moment-là, on s'est posé beaucoup de questions au moment des découvertes d'abord des manuscrits de la Bible, mais il y avait aussi des manuscrits d'une règle de communauté. On s'est dit, ah tiens, une communauté qui qui vivait une sorte de vie consacrée, une sorte de vie monastique. En plus, on a fait d'autres découvertes un peu plus loin, la Mer Morte, hein, les manuscrits de la Mer Morte, mais un peu plus loin, on a trouvé apparemment un espèce d'ancien monastère. On voyait qu'il y avait beaucoup, c'était donc un complexe de bâtiments, et en particulier, on avait détecté des endroits pour les bains rituels que pratiquent les Juifs. Et on s'est dit, tiens, ben voilà une communauté vraiment religieuse, et en plus, en mettant ça en lien avec la règle du maître, enfin, c'est pas la règle du maître, c'est la règle, je sais plus, la règle de la communauté, enfin, un écrit qumranien, on a dit, bon, il y avait apparemment des moines juifs à ce moment-là. Bon, la différence, c'est que c'était en même temps un peu une secte, enfin, pas au sens moderne actuel, mais une secte au sens, un courant du judaïsme, qui, semble-t-il, était plus large que simplement une communauté et qui regroupait donc des gens pas forcément engagés comme nous dans une consécration. Par contre, en Israël, on avait l'élément qu'on appelle le naziréa. Les nazirs étaient des consacrés, donc qui s'engageaient par un vœu. Ça consistait normalement à s'abstenir d'alcool, à s'abstenir de toucher, d'avoir des contacts avec tout ce qui avait un lien avec la mort. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tous les interdits concernant, attention, quand il y a un mort, celui qui est prêtre, il ne doit pas le toucher, parce que sinon, il devient temporairement inapte à célébrer le culte. Hein. Voilà, donc ça, c'était les nazirs, eux, ben, s'engageaient, mais pour un certain temps, pour trois ans, quelques années, quelques mois, quelques... Bon. Donc c'était une ébauche, on va dire, mais on n'est pas dans l'optique de consacrer toute sa vie au Seigneur. Hein. Donc ça devient envisageable et qu'à partir donc, de l'enseignement et de la vie de Jésus-Christ. Alors quand on regarde maintenant le Nouveau Testament... eh bien, on voit deux choses. On voit que dans la vie du fondateur lui-même, donc de Jésus, tel que nous la décrivent les évangiles et que nous l'interprètent les premiers écrits chrétiens, eh bien, on voit que, en effet, lui a vécu pauvrement, ne s'est pas marié, et aussi, Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean y insiste beaucoup, il a vécu une forme d'obéissance qui est l'obéissance au Père. Donc on a effectivement en sa personne un exemple de vie consacrée, de vie entièrement donnée à une personne qui est Dieu, mais donc lui-même étant aussi Dieu, ça c'est le mystère de la Trinité, mais avec ce lien donc du Fils entre le Fils et le Père. Voilà, donc ça, on peut dire qu'il y a un modèle là. En plus, il y a la vie des disciples qui suivent Jésus partout et qui sont appelés par lui à une tâche spécifique. Voilà. Mais ça suppose finalement deux choses. Il les appelle, mais eux, bon, bah, c'était manifesté aussi. Ils étaient intéressés, ils suivaient ce rabbi qui les fascinait. Et puis, donc, ils s'étaient manifestés comme étant disponibles. Et lui confirme leur disponibilité. Il dit, bah, okay, bien sûr, bah, venez, suivez-moi. Hein, et puis, quittez tout. Donc ça, ce sont les scènes connues des vocations des disciples. Et en plus de ça, alors après, disons dans le... Parce qu'après, évidemment, tout ce qui est central, c'est le mystère pascal, c'est-à-dire Jésus qui meurt et puis qui est ressuscité. Alors à ce moment-là, et qui fonde donc l'Église, en particulier il le fonde sur l'Eucharistie. Et donc là, les disciples qui étaient là, disponibles, alors on dit qu'il les ordonne évêques, si vous voulez, en tout cas, il les charge de l'Eucharistie, justement, hein, et de l'Église, parce que Eucharistie et Église sont liées. Voilà. Alors ça fait deux aspects. On va parler à ce moment-là de vie sacerdotale et de vie consacrée comme étant deux choses distinctes. Alors nous, les moines, c'est la partie vie consacrée. Donc on peut dire que les apôtres réunissaient les deux et que les moines... et les moniales, donc, alors, au début, dans les premiers siècles, on parle des vierges, qui sont hommes ou femmes, hein, vierges, donc ils gardent le célibat, ça va être ça. Hein. Dans l'évangile, c'est un terme beaucoup plus cru, ce sont les eunuques. Elle a aussi homme ou femme, en fait. En tout cas, Jésus ne précise pas, mais vous savez, il y a cette fameuse réponse qu'il donne. Alors, les disciples qui se disent quoi, l'homme ne peut pas renvoyer sa femme, c'est quand même dur. Mais dans ce cas-là, il n'a pas intérêt à se marier. Et Jésus, qui, loin de leur dire, si, si, il faut se marier, il dit, tout le monde ne peut pas comprendre ça, mais sachez qu'il y a les eunuques qui sont devenus comme ça, qui sont comme ça de naissance. Il y a les eunuques qui se sont fait tels, ou que les hommes ont fait tels, et puis il y a ceux qui sont eunuques pour le royaume des cieux. Voilà. Donc ça, c'est une expression un peu forte, hein, mais voilà, c'est ça le fait d'être vierge. Voilà, ça concentre, disons, le renoncement sur le renoncement à fonder une famille. Et donc, mais en fait, donc ça, finalement, tout était quand même lié. La virginité n'est pas envisageable sans une certaine pauvreté et sans l'obéissance surtout. Hein. Donc si je choisis cette voie-là, je vais me mettre dans l'obéissance par rapport à l'Église, par rapport aux apôtres, par rapport à leurs successeurs. Et voilà. Et alors, donc on voit aussi, alors il y a quelque chose qui a beaucoup marqué le courant monastique, mais qui n'existait pas encore, c'est la description que font les Actes des apôtres. Vous savez que les Actes des apôtres, c'est un livre du Nouveau Testament qui habituellement est placé directement après les quatre évangiles et qu'on décrit comme étant le cinquième évangile ou l'évangile du Saint-Esprit, ou enfin bref, il y a plusieurs façons de le caractériser. Et dans le chapitre 2, vous avez ce qu'on appelle un sommaire, qui est une description en très courte, en quatre phrases, que je ne sais pas par cœur, mais en gros, de l'Église de Jérusalem. Donc les premiers chrétiens, comment vivaient-ils? Eh bien, il nous est dit que, sans donner de détails, hein, mais qu'ils avaient un seul cœur, une seule âme, donc un idéal vraiment d'unité, de mise en commun. Alors il précise un peu plus loin qu'ils mettaient en commun tous leurs biens, donc ça c'est la pauvreté telle qu'on la pratique ici. C'est-à-dire que quand on rentre au monastère, ben, soit on donne tout avant de rentrer, ou alors on le donne à la communauté. Donc en tout cas, il y a une mise en commun. Ensuite, au monastère, tout est commun à tous. Voilà. Et ils étaient assidus aussi à la prière, à la fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, et à l'enseignement des apôtres. Donc voilà, en gros, bon, ben, tout y est à peu près, sauf qu'il ne dit pas qu'il faisait vœu de célibat, puisque c'était donc les chrétiens, c'était toute la communauté chrétienne, ben, ils pouvaient très bien, en effet, être mariés, avoir des enfants. Après, il y a des détails qui suivent sur les veuves, ou ceux qui... C'est chez saint Paul, après, dans les épîtres de saint Paul, qu'on va trouver d'autres informations. Mais vous voyez, cet idéal d'unité qui est de la mise en commun des biens. Donc oui, là, il insiste moins sur la chasteté. Et puis l'obéissance, bah, parce qu'ils sont assidus à l'enseignement. Quand on parle d'obéissance, il faut penser aux deux aspects, gouvernement et enseignement. Obéir au gouvernement, ça veut dire faire ce qui nous est demandé de faire. Mais en fait, il y a aussi l'obéissance à l'enseignement. C'est-à-dire que obéissance voulant dire aussi écouter, bah, d'abord on écoute l'enseignement et on y adhère de tout son cœur. Ça, c'est une forme d'obéissance également qu'on retrouve dans la règle de saint Benoît. Puisque le père abbé gouverne et enseigne en même temps. Alors voilà, donc ça, vous voyez, je vous parle des origines, pas encore directes, c'est tout ce qui annonce tout ce dans quoi le monachisme ensuite va puiser en se créant et en essayant de se développer, de s'actualiser à chaque époque, et bien il va à chaque fois retourner à la source. Vous voyez, donc là j'ai encore presque trois quarts d'heure. Donc maintenant, on essaye de parler du monachisme proprement dit, de sa création et de son évolution. Et effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, au départ, évidemment, on parle d'une chrétienté indivise, jusque, bon, en gros, pendant tout le premier millénaire. Hein, et donc, il n'y a pas... encore à distinguer le monachisme orthodoxe et le monachisme latin, bénédictin. Ou, voilà. Mais donc tout ce qu'on va dire au début est vraiment valable pour tous les moines. Puis après, il faudra faire des distinctions. Alors, donc le début, traditionnellement, on revient toujours à des grandes figures qui sont des Égyptiens et qui ont vécu au IVe siècle. Hein. Alors, bon, pour faire simple, on peut donner tout de suite donc, les deux formes qui sont apparues, c'est les ermites et les cénobites. Alors ermite, ça vient de eremos en grec qui veut dire désert, et cénobite vient aussi de deux mots grecs, koinos, bios, donc la vie commune. Donc en passant par le latin, ça donne cénobite. Voilà. Alors les ermites, vous voyez que normalement c'est simplement le fait qu'ils vivent dans le désert. Donc on ne dit pas qu'ils sont seuls, mais bien sûr, dans notre idée, un ermite c'est un solitaire. Sauf qu'en fait, ils étaient solitaires, mais quand même ensemble, vous allez voir. Donc la figure tutélaire, c'est saint Antoine le Grand. Alors né en 251, donc c'est quand même au 3e siècle encore. Mais il a eu une grande longévité puisqu'il est mort en 356. Vous voyez, bon, ça conserve, voilà. Et alors, d'origine, sa famille est chrétienne. Donc nous sommes en Égypte, nous sommes en Moyenne Égypte. Sa famille est chrétienne. On nous le décrit. Alors c'est son biographe, c'était pas n'importe qui, c'est saint Athanase qui a été donc patriarche d'Alexandrie, donc évêque d'Alexandrie, mais aujourd'hui on dit patriarche d'Alexandrie, et qui est aussi le grand défenseur de l'orthodoxie au IVe siècle dans le concile de Nicée, enfin surtout entre le concile de Nicée et celui de Constantinople, voilà, pour avoir donc défendu la divinité du Christ contre Arius et les Ariens. Bon, et alors il présente en fait saint Antoine comme étant lui aussi un défenseur du Christ et de sa divinité par la vie qu'il a menée. Voilà. D'ailleurs, Antoine est venu à Alexandrie en espérant mourir martyr pour le Christ, en tant que Christ étant Dieu. Donc, mais enfin, principalement, donc, il innove un peu en allant justement dans le désert, alors que jusqu'à son époque, les vierges, ou on disait aussi les ascètes, au sens où c'est ceux qui s'entraînaient quotidiennement, nuit et jour même, à la prière, aux veilles et aux jeûnes. C'est les trois points, les trois colonnes, la prière, le jeûne, l'éveil. Donc ça, c'est l'ascèse qui est pratiquée par tous les ascètes, justement, et bon, les vierges. Hein, voilà. Donc ça, il y en avait déjà, qui vivaient un petit peu en marge du village, mais qui étaient, bien sûr, dans la paroisse, on peut dire, si on peut parler de ce terme, c'est un peu anachronique, mais disons, ils étaient avec les autres chrétiens, mais se mettaient un peu à l'écart pour pratiquer plus assidûment ces exercices-là, cette ascèse. Alors saint Antoine, à l'âge de 20 ans, étant devenu orphelin, ayant donné tous ses biens aux pauvres, eh bien, se lance aussi dans l'ascèse de cette façon-là, mais très doué, il n'a pas de mal à imiter tous les ascètes qui sont là. Donc d'abord, il se met à leur école, et il fait la même chose qu'eux, ne pas manger beaucoup, ne pas dormir beaucoup, prier beaucoup. Voilà. Et au bout d'un moment, eh bien, il a l'inspiration d'aller plus loin que simplement à l'orée du village, mais de s'enfoncer dans le désert. La première fois, il va dans des tombeaux. Vous savez, en Égypte, donc les tombeaux, c'est avec des hiéroglyphes, tout ça. Hein. Donc et en effet, pourquoi il va là? C'est pas par hasard, c'est parce qu'il considère que c'est un culte des morts qui n'est pas chrétien, qui est démoniaque. C'est un culte voué aux démons, sans le savoir, mais quand même, objectivement. C'est ce que les juifs déjà pensaient, et ce que les chrétiens aussi considèrent à leur tour. Donc, le fait d'avoir ces tombeaux énormes là. Donc il va là exprès pour finalement défier le démon qui s'y trouve. Et en effet, dans la vie de saint Antoine, il est beaucoup de questions du combat spirituel, donc du combat contre les démons en fait. Bon, et il reste quelques années, et ça le forme beaucoup dans son humilité, parce que la seule arme contre le démon, c'est l'humilité. Donc ne pas se croire quelqu'un, mais tout dire, enfin, toujours se défendre en faisant appel au Christ. Donc c'est ce qu'il fait. Alors, ayant franchi cette étape, il va encore plus loin dans un fort abandonné à Pispire. Alors, on écrit d'habitude Pispir, toujours en Moyenne Égypte, mais là, c'est vraiment dans le désert. Et il s'y enferme. Donc, il vit un temps de réclusion qui dure 20 ans. La réclusion, donc, c'est une forme extrême où vous êtes vraiment enfermé. Personne ne peut venir vous parler, hein, sauf quelqu'un pour lui apporter du pain tous les 6 mois. Donc, ça prouve qu'il jeûnait aussi beaucoup. Et cette étape-là, il la termine vers 50 ans. Et elle est très importante parce que là, il a bien vu qu'il n'y avait pas que le démon, mais il y avait le combat contre soi-même aussi. Et donc, il a, au bout de cette étape, il a atteint ce qu'on appelle donc l'apathie, l'apatheia en grec. Apathie, ça veut dire ne plus avoir de passion, ne plus être, disons, soumis à ses passions. Donc, pardon. Apathie, enfin, comme apathie, mais en fait, la terminaison grecque, c'est E-I-A. Voilà.
T-H-I-E.
T-H-E-I-A, quoi. Enfin, apathie en français. Ouais. Mais en français, évidemment, le sens n'est pas exactement le même. C'est une sorte de maladie, l'apathie. Tandis que là, il s'agit d'un état auquel on arrive après avoir mené ce combat, qui est un combat par l'ascèse, mais aussi par le discernement et aussi, surtout, par l'humilité, par la prière. Hein. Donc, de ne plus être le jouet ou la... de ses passions, c'est-à-dire tout ce qui est colère, envie, vous savez, tout ce qu'on listait autrefois, les péchés capitaux, mais c'est en fait d'abord quelque chose qui nous affecte et dont on est le jouet. Alors parfois on dit non, c'est bien d'être en colère, je veux être en colère, c'est mon caractère, j'ai le droit, c'est comme ça que j'existe, alors c'est très bien, on a le droit de dire ça, mais pour les moines, c'est pas le bon chemin parce que la colère nous domine beaucoup plus que nous ne la dominons. Donc, au contraire, il faut pas être le jouet de ses passions, mais être seulement l'esclave du Christ. Ah, voilà. Donc, et ben voilà, Antoine a franchi cette étape, mais il s'estime pas du tout arrivé pour autant, sauf que, bon, à ce moment-là, il comprend dans la prière, par l'Esprit Saint, hein, parce que donc, l'Esprit Saint est très important, que c'est le moment de ne plus être reclus, mais d'ouvrir sa porte. Alors, symboliquement, il ouvre sa porte, et à ce moment-là, tout le monde vient. Le voir, parce que tout le monde savait qu'il était là et tout le monde était très intrigué, curieux de savoir ce qu'il faisait, ce qu'il devenait, et ils ne sont pas déçus. Donc tout le monde vient, c'est-à-dire que vous avez deux types de rencontres qui se font maintenant. Ce sera ceux qui vont être ses disciples, ceux qui arrivent parce qu'ils veulent faire la même chose que lui. Alors, non pas pour faire des exploits sportifs, en fait ils sont motivés par une chose, et ça c'est la question rituelle. Ils viennent demander à cet ancien, quoi, celui qui les a précédés sur la voie du salut, eh bien, c'est justement, ils veulent être sauvés. Dis-moi, alors ils arrivent, la question rituelle, c'est Abba, Père, hein, dis-moi comment je dois faire pour être sauvé. Dis-moi une parole de salut. Hein. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, parce que normalement, pour les chrétiens, le salut, bon, ben, c'est d'être... de faire son devoir, de fréquenter les sacrements, l'église, etc. Donc, pourquoi venir là, dans le désert, suivre cet homme, hein? Il n'est pas prêtre, hein? il est un simple laïc, comme vous et moi, sauf qu'il a vraiment... il est entré finalement dans une troisième voie, si on veut, hein? C'est de s'être vraiment consacré, de s'être vraiment entièrement... alors, séparé dans un premier temps, mais vous voyez qu'il est rejoint maintenant, pour justement rechercher le salut, c'est-à-dire pour bénéficier vraiment du salut, il y a cette troisième voie qui consiste à aller un peu au-devant des épreuves et pour être plus spécialement consacré à la prière. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire que dans le monde, les gens ne se sauvent pas, hein. Ne bénéficient pas du salut apporté par le Christ. Justement, il y a des apophtegmes. Alors, vous savez, ce sont les histoires racontées sur les moines du désert, hein, et qui se sont transmises, qui ont été ensuite classifiées. Ça donne des volumes fort savoureux, fort précieux, ce qu'on appelle les apophtegmes.
On a communiqué quelques citations d'apophtegmes.
Oui, c'est merveilleux. Hein. Alors, bon, y en a qui montrent que Antoine lui-même, le grand Antoine le Grand, est allé à Alexandrie, parce que sur une révélation du Seigneur, il a su qu'il y avait dans la ville d'Alexandrie quelqu'un qui était plus avancé que lui sur les voies de la prière. Et ce quelqu'un, c'était un pauvre cordonnier. Voilà. Je vous laisse découvrir la suite, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas non plus de mépris pour ceux qui n'ont pas choisi cette voie-là. Hein. Mais n'empêche que pour celui qui la recherche, qui va voir Antoine, c'est une question quasiment de vie et de mort, mais au sens spirituel. C'est-à-dire, si je ne fais pas ça, je risque d'aller en enfer. Voilà. Donc c'est le salut éternel dont il s'agit. Voilà. Alors, donc ça, c'est l'origine du mouvement érémitique. C'est un mouvement, parce qu'ils ont été tellement nombreux, que saint Athanase, le biographe, a dit, c'est peut-être une hyperbole, mais ça fait rien, il a dit, le désert devint une cité. Donc pas une ville, mais le désert était couvert d'ermitages, qu'on appelait les cellules. Hein, couvert d'ermitages. Ils étaient suffisamment loin les uns des autres pour ne pas se gêner, mais quand même suffisamment près pour pouvoir s'aider. Et en particulier, il fallait que les disciples puissent consulter à tout moment leur maître, leur enseignant, leur ancien, leur abba. Hein, donc ce sont tous des termes un peu qui décrivent les mêmes personnes. Hein. Voilà, parce que c'était lui qui était désigné par Dieu, ou choisi par eux aussi, pour les mener vraiment, pour les aider à franchir toutes ces étapes et arriver à cette apatheia, hein, qui n'est elle-même qu'une étape après pour être vraiment complètement un serviteur de Dieu. C'est pas une espèce de certificat après quoi on n'a plus qu'à se... Comme malheureusement le mot apathie peut le suggérer, mais c'est pas du tout ça. Ce n'est qu'une porte d'entrée en fait, mais déjà difficile d'atteindre. Voilà. Alors pour quand même essayer de progresser, passons tout de suite aux cénobites. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors là vous avez la figure de saint Pacôme, qu'on peut écrire avec ou sans H. Donc là aussi un Égyptien. Alors lui, il ne vit pas en Moyenne-Égypte, mais en Haute-Égypte, donc encore plus au sud. Et il n'était pas chrétien de naissance, mais bon, visiblement quand même quelqu'un en recherche, et qui à un moment donné est fait prisonnier par les Romains. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre vraiment le christianisme, parce que alors qu'ils étaient prisonniers, qu'ils remontaient le Nil en bateau, eh bien des chrétiens sont montés lors d'une escale dans le bateau et sont venus consoler et soigner ces pauvres prisonniers des Romains. Et bon, alors il se dit, mais pourquoi ils font ça? Et alors on lui dit, mais c'est parce qu'ils sont chrétiens et leur religion leur dit de venir au secours des hommes, quels qu'ils soient. Ah, alors ça, il a été très impressionné, il a vu là vraiment sa vocation. Il a dit, il a fait la promesse au Seigneur, ben, si je m'en sors, hein, je vais me faire baptiser et je me mettrai moi aussi au service des hommes. Oui, c'est assez vaste comme vocation. Au début, il n'a pas tout de suite su comment concrétiser ça. Donc la première étape qu'il a faite, c'est le baptême. Mais aussitôt après, il a lui aussi été le disciple d'un ancien, d'un ascète, qui s'appelait Palamon, donc dans sa ville natale, hein, qui était alors donc Tabénèse, en Haute-Égypte. C'est près de Thèbes, je crois. Enfin, donc c'est peut-être le barrage d'Assouan maintenant. Enfin, donc c'est dans ces régions-là. Donc lui, il n'a pas vraiment été dans le désert, il est resté dans un village. Mais se demandant ce qu'il devait faire, il ne cessait de prier pour être un peu éclairé, jusqu'à ce qu'il trouve que finalement, sa vocation à lui, c'était justement de servir l'humanité, dans le sens qu'il allait grouper autour de lui des disciples, mais au lieu d'être simplement leur père spirituel le temps de leur formation et un peu au-delà, il allait être leur abbé, leur supérieur. Et ces cénobites allaient avoir comme caractéristique d'avoir tous, de former une communauté, d'avoir tous une seule règle et un seul abbé. Donc un seul ancien finalement, mais qui est aussi leur supérieur dans ce cas. Hein. Et donc une seule règle. Et donc il a effectivement écrit une règle. La règle de saint Pacôme a été ensuite traduite en grec et en latin par saint Jérôme. Voilà, donc, mais aussi un seul abbé, donc un seul père de cette communauté. Et ça, alors, ça répondait certainement à un besoin, puisqu'il a eu, de son vivant, plusieurs milliers de moines. Hein, donc, pas mal. Donc, ça a grossi très rapidement. Quand ils ont été 100, alors là, il a dit, donc là, ça commence à être compliqué, avec le village à côté, on va faire une clôture. Donc, c'est l'invention de la clôture monastique, qui remplace le fait d'être dans le désert. Hein. Donc c'est le fait d'avoir un mur et avec une seule porte permettant de séparer la communauté là, des frères qui vivent selon leurs règles et avec la direction de cet abbé et puis tous les autres chrétiens ou pas chrétiens qui sont au dehors. Donc ça, c'est un peu aussi un modèle qui a servi par la suite. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé comme substitution? C'est que au lieu d'être dans le désert, on est dans une clôture. Au lieu d'avoir donc chacun sa règle, parce qu'en fait les ermites ont chacun leur règle qui leur a été donnée par leur abbé, donc eux sont obéissants à cette règle, qui se sont donnés, qui suivent très fidèlement, même si personne ne les voit. Mais alors, cette règle, elle est adaptée à chacun, à ce qu'il peut faire. Et souvent, ils cherchaient à en faire plus, en fait. Hein, ils étaient très zélés. Donc, ils jeûnaient beaucoup, ils veillaient beaucoup, ils priaient énormément, ils apprenaient la Bible par cœur, etc. Donc, ils étaient des champions. Par contre, les cénobites, eux, c'est très différent. C'est comme une équipe de foot par rapport à quelqu'un qui fait de l'athlétisme. Et ben, là, ce qui compte, ce n'est pas d'être des super athlètes, c'est d'être, de former une équipe. Et pour ça, ben, d'obéir au chef et puis de se soutenir les uns les autres. Voilà. Alors Saint-Benoît emploie la comparaison d'une armée. Voilà, c'est un peu la même chose. L'armée est puissante, du moins l'infanterie, parce qu'ils sont groupés, et ils marchent en ligne. Les cavaleries, par contre, ils vont où ils veulent. Hein. Donc ça, c'est les ermites, les cavaliers. Et puis, par contre, les cénobites, c'est l'infanterie. Voilà. Donc, mais au plan spirituel, ça suppose qu'on a vraiment mis au premier plan l'humilité, alors que les ermites, bah, effectivement, ils doivent être humbles, mais souvent, ils risquent de tomber dans une certaine démesure, parce que se disant, mais moi, je suis plus qu'un homme, j'arrive à ne pas manger pendant tant et tant de temps, etc. Je suis extraordinaire, et voilà le problème. Hein. Tandis que, bon, les cénobites, là, non. Tout le monde fait la même chose. Il n'y a pas moyen de se croire plus que les autres. Saint Benoît, donc, il a bien pris les leçons là de ce qu'il a précédé. Il dit il faut que les plus forts aient toujours envie d'en faire plus, mais sous-entendu, ils n'en feront pas plus, et que les plus faibles, eux, ben, ne soient pas rebutés, parce que le fait qu'on demande est trop, c'est déjà trop pour eux. Donc, vous voyez, l'attention aux plus faibles, en fait. Hein. Alors, c'est pas nivelé par le bas non plus, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit attirant quand même, et il y a une certaine émulation, mais c'est une émulation fraternelle. Hein. Voilà. Alors donc, Saint Pacôme a vraiment trouvé quelque chose de bien, sauf que, alors, il y a eu un défaut dans la cuirasse, c'est que les centaines et milliers de moines qui étaient là, eh ben, ils étaient tous les fils de Pacôme, fils spirituel. Sa personnalité avait a joué un très grand rôle parce qu'il avait effectivement une personnalité exceptionnelle au plan humain, une capacité d'empathie, de compréhension, évidemment décuplée par le fait que c'était un saint et qu'il avait en plus donc l'assistance du Saint-Esprit, si je puis dire. Hein, donc c'est vraiment formidable. Sauf qu'après ses successeurs, ben, ils ont eu du mal à continuer sur cette lancée. Hein. Donc le cénobitisme a montré aussi ses limites, dans la mesure où déjà c'était trop grand, hein, c'était plusieurs milliers, c'était trop... voilà. Donc il y a eu aussitôt après d'autres modèles qui ont été cherchés. Hein. Alors l'érémitisme, c'était dangereux au sens voilà, où on pouvait partir un peu dans le décor en se croyant quelqu'un d'exceptionnel. Le cénobitisme, c'était merveilleux, mais avec danger d'être trop nombreux, que ça repose sur plutôt des liens de personnes. Et bon, voilà, donc il fallait encore se trouver. Quoi. Donc ça a mis du temps à bien trouver la voie moyenne. Hein. Une des solutions qui a été trouvée en Palestine, surtout en Palestine, mais qui ensuite a fait école, c'est le système mixte qui a reçu le nom de LAURE, L-A-U-R-E, où vous avez une communauté cénobitique, mais faisant partie de la même communauté, des ermites, qui peuvent sans arrêt revenir, se recharger les affûts et puis repartir, et qui sont de toute façon quand même sous l'autorité de l'abbé de l'ensemble. Hein. Voilà, donc ça, c'est très bien, ça, parce que ça permet, en effet, d'avoir les avantages et les inconvénients. Hein, bon. Mais ça a surtout marché dans le monachisme orthodoxe. Et en effet, ça continue comme ça. Le mot Athos, c'est un peu ça quand même. Voilà. Alors, tandis qu'en Occident, vous allez voir, nous, on est parti vraiment pour encourager le cénobitisme. L'érémitisme, encore aujourd'hui, a toujours été minoritaire, très minoritaire, un peu symbolique, hein, même s'il y a eu des époques où il était très, très fort. Bon, il y a aussi eu des solutions intermédiaires qui ont été trouvées, comme par exemple les Camaldules au XIe siècle, qui sont sous la forme des Laures orientales. Quoi. Ils ont un monastère cénobitique et puis des ermites autour. Hein. Les Camaldules, donc c'est fondé par Saint Romuald au XIe siècle. Aussi les Chartreux, XIe siècle, même période, hein, où il y avait une tendance hérémitique à ce moment-là. Les chartreux, ce sont des ermites, en fait, mais qui sont ensemble avec des coutumes qui régissent leur existence, qui sont quasi immuables, enfin, en tout cas selon la légende, puisqu'on dit le monde tourne et la croix demeure, et sous-entendu aussi la vie cartusienne, la vie des chartreux demeure la même. Après, ça, on peut en discuter. Mais n'empêche que voilà, c'est quand même hérémitique, mais avec en fait une forme qui fait que c'est une vie hérémitique bien, bien encadrée, quoi. Du point de vue de l'Église, en effet, la vie hérémitique, c'est à la fois une très grande richesse, mais pour l'évêque, il se dit, ben oui, mais les ermites, il faut que j'aille les voir, parce que ce sont des sujets dont j'ai la charge aussi, il faut que j'aille les voir. Donc, pour lui, c'est compliqué. Ils sont souvent dans des endroits inaccessibles, il n'a pas que ça à faire. Hein, donc, tandis que s'il va voir une communauté... il parle avec l'abbé, puis il voit que ça va bien, puis c'est bon, quoi. Hein, vous voyez, donc, au plan du gouvernement, il y a des avantages qui expliquent qu'en Occident, on a préféré encourager cette forme-là. Hein. Mais ça a commencé déjà en Orient, puisque au IVe siècle encore, vous avez saint Basile, évêque de Césarée de Cappadoce, un père de l'Église éminent, qui a écrit une règle pour les moines, et en encourageant très fortement la vie cénobitique, en fait. Hein. Et même, en plus, pour lui, les moines doivent s'occuper des pauvres, doivent avoir une activité. Hein. Donc, déjà, dans son esprit, le moine, bien sûr, sa visée, c'est contemplatif, mais il a des activités au service de l'Église, en fait. Hein. En Occident, alors, le flambeau passe à saint Augustin, vous voyez, mort en 430, mais qui, dès le moment de sa conversion, en 386, il a été baptisé en 387, je crois, et il a tout de suite vécu en communauté. Et après, de retour en Afrique du Nord, il a fondé des communautés monastiques, lui-même, quand il est devenu évêque, eh bien, étant évêque, voulant vivre la vie commune avec ses prêtres. Voilà, alors ça c'est un peu, vous voyez, ça, c'est un peu autre chose, quoi. C'est ce qu'on appelle les chanoines, c'est-à-dire ce sont des prêtres qui vivent en commun, comme les apôtres, dans le but d'avoir une base arrière pour leur apostolat, pour leur mission de prêtre. Donc c'est un peu différent, mais finalement ça se rejoint quand même. Mais donc, pour saint Augustin, il avait les deux. Il avait les prêtres qui vivaient autour de lui, qui étaient pauvres, parce qu'il voulait qu'ils soient pauvres, hein, qui étaient obéissants, bien sûr, comme des prêtres par rapport à l'évêque. Et puis, il avait aussi, dans sa ville épiscopale, une communauté monastique. Enfin, même deux, parce qu'il en avait aussi une de femmes. Hein. Mais alors, ce sont des communautés urbaines qui peuvent aussi avoir des activités. Quoi. Mais la principale activité, c'est quand même d'avoir une vie fraternelle, parce que, pour saint Augustin, il l'a dit de cette façon-là, la vie fraternelle, de tous les chrétiens déjà, ensemble, mais plus spécialement d'une communauté de consacrés, c'est en somme la vitrine de la vie chrétienne. C'est, si vous voulez savoir, alors il dit, je crois, dans cette formule raccourcie, la Trinité, hein, c'est aussi une communauté, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, donc Dieu est lui-même déjà une communauté. Je m'exprime un peu rapidement, mais c'est pour vous expliquer le... Voilà. Mais, la meilleure manière de montrer aux autres qui est notre Dieu, c'est nous-mêmes de former une communauté. Donc pour lui, il y a un lien avec le christianisme qui se situe surtout à ce niveau-là. Donc, du coup, l'érémitisme, bon, c'est pas son centre d'intérêt premier, hein. Voilà. Et donc ça redonne bien sûr beaucoup de vigueur à la vie cénobitique. Hein. Et alors on arrive évidemment à saint Benoît qui s'est inspiré de saint Augustin, mais pas seulement. Donc saint Benoît, c'est quand même longtemps après si on veut, puisque 450 ans après, saint Benoît est né, 50 ans après la mort de saint Augustin, saint Benoît est né, donc on dit traditionnellement 480. Et il meurt en 547. Ayant fondé d'abord Subiaco, et puis ensuite le Mont Cassin en 529. Ce sont les dates traditionnelles. et le Mont-Cassin. Donc il écrit pour le Mont-Cassin la fameuse règle, qu'il appelle règle des moines. Hein, c'est comme Saint-Vendry, il n'a pas appelé cette abbaye Saint-Vendry. Saint-Benoît n'a pas dit règle de Saint-Benoît, il avait ça la règle des moines. Mais il y avait d'autres règles, ce n'était pas le premier qui écrivait une règle. Lui-même s'est inspiré de ce qu'on appelle la règle du maître, qui est anonyme, enfin pour nous elle est anonyme, on ne sait pas qui l'a écrite. Voilà. Celle de Saint-Benoît, on sait qui l'a écrite par la tradition, et en particulier par le témoignage du pape Grégoire le Grand, qui a été pape de 590 à 604. Donc un peu de temps après la mort de Saint-Benoît, mais qui a interviewé les disciples de Saint-Benoît. Alors cette règle, en fait, elle se présente à nous comme un écrit très court, plus long que celle de Saint-Augustin quand même, un écrit vraiment court, vraiment synthétique, et aussi très équilibré. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle la fameuse discrétion de Saint-Benoît. C'est pas discrétion au sens de ne pas dire beaucoup de choses plus que ce qu'il faut. C'est la discrétion au sens équilibre, mesure, discernement de ce qui est essentiel. Et en effet, quand on l'étudie comme nous, on l'étudie à fond, on voit bien qu'il n'y a rien de superflu et puis que tout y est en même temps. Hein, tout. Et elle est à la fois un écrit législatif, elle sert de droit propre, hein, moyennant ensuite, au fil des siècles, l'addition de déclarations qui disent comment on adapte maintenant ce qui est pris comme dispositions pratiques qui ne sont plus valables. Hein. Mais sinon, elle est quand même l'élément, le cœur de notre législation, donc un élément canonique. Mais aussi guide spirituel, parce qu'il a réussi à y faire couler toute une synthèse de ce qui avait été déjà élaboré depuis 3 siècles, hein, puisqu'on part du 4e et ça fait 2 siècles et demi, 3 siècles. Il a, de par sa propre personnalité, par sa propre vie, son expérience que nous relate le pape Saint Grégoire dans les dialogues, eh bien, il était à même de pouvoir, en peu de phrases, vraiment caractériser le chemin spirituel des moines. Mais à tel point que cette règle, en effet, peut servir de guide spirituel aussi pour des personnes qui ne sont pas moines, qui ne sont pas consacrées dans la vie monastique, puisque donc nous avons les oblats, c'est un peu comme on dirait le tiers-ordre, comme il existe pour d'autres ordres. Les oblats séculiers sont des gens qui décident de mettre en œuvre, à leur façon, cette règle, surtout dans ses chapitres spirituels, dans son enseignement spirituel, dans leur propre vie. Donc ça peut être des prêtres, des gens qui sont parents ou des gens célibataires. Voilà. Donc ça, c'est plus libre. Mais bien sûr, Saint-Benoît écrit d'abord pour sa communauté, et puis en se disant, il y a peut-être d'autres communautés qui s'inspireront de ce que j'ai écrit. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout certain. Il ne pensait pas fonder un ordre. Hein. Le fameux ordre de Saint-Benoît n'a pas vraiment existé en réalité. Hein. Et en tout cas, ce n'est pas lui qui l'a fondé. Hein. Il a fallu beaucoup de temps pour que sa règle s'impose. Alors d'abord, il faut dire qu'il y a eu des époques de croissance exponentielle du monachisme en Occident. Déjà avant Saint-Benoît, enfin, ou en tout cas immédiatement avant lui, ou de façon contemporaine, il y a beaucoup de monastères déjà, par exemple en Gaule, beaucoup de monastères, mais souvent des monastères urbains. Hein. Bon, en plus, le monachisme va être propagé et va connaître une fortune rare en Irlande. Hein. Alors, vous connaissez Saint Colomban, peut-être, qui est venu ensuite sur le continent fonder d'autres monastères, comme par exemple Luxeuil, Bobbio. Alors ça, c'est lié avec l'histoire de Saint Vendrille, puisque Vendrille, au 7e siècle, va être très influencé par Saint Colomban, par la spiritualité irlandaise. Mais la règle de Saint Colomban s'inspire un peu de celle de Saint Benoît, mais elle est aussi beaucoup plus sévère, beaucoup plus ascétique que Saint-Benoît. Il manque la discrétion, là, justement. Enfin, il manque, elle est moins forte. Et justement, au 7e siècle, de nouveau, beaucoup de monastères se fondent, surtout en Gaule du Nord, donc en particulier ici, Fontenelle. Donc là, on peut dire qu'il y a eu une prolifération. Et au 7e, 8e siècle, le monachisme prend de plus en plus d'importance. Parce que, en fait, les nobles, les grands, eh bien, lui donnent des terres, veulent absolument, on pourrait dire, faire des placements spirituels, hein, en soutenant les monastères. Hein. Et donc ça va. Et en même temps, c'est des placements aussi culturels parce que les moines ont vraiment, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est vrai, transmis l'héritage, même l'héritage gréco-romain païen, mais aussi bien sûr tout ce qui était écrit chrétien, ils en étaient plus spécialement chargés, mais aussi l'enseignement de la formation gréco-romaine classique, quoi, les lettres, enfin surtout latines bien sûr de notre côté, mais donc là aussi, on fait reposer beaucoup sur leur vie. On leur fait porter un peu plus que ce que saint Benoît avait prévu. Pour saint Benoît, il n'entend pas faire, quand il dit dans la règle, nous allons former une école du service du Seigneur. Pas une école de latin, de chant, et d'agriculture, et etc. Ça, c'est venu parce que, bon, ben, ça s'y prêtait, mais c'est parce qu'on avait aussi besoin de ça. Donc c'est souvent les gouvernants qui disaient, ben, à qui on va confier ça? Aux moines, évidemment. Hein, donc, et en retour, ils attendaient que les moines soient un peu aussi coopératifs, obéissants. Donc ça tombe bien, ils en font vœu d'obéissance. Donc. Mais peut-être là aussi, on les a entraînés dans une certaine direction. Bon, il ne faut pas le regretter, hein, du tout. Mais enfin, il ne faut pas s'étonner non plus si c'est pas forcément à toutes les époques de la même façon. Hein. Il faut savoir distinguer ce qui, historiquement, a été pris en charge par la vie monastique de ce qui fait, en fait, l'essentiel de cette vie monastique. Ça, c'est des choses à voir, parce que quand on voit ce qu'on doit faire aujourd'hui, est-ce qu'on doit... Alors nous, on est bien contents d'avoir ces beaux bâtiments, ce bel endroit, mais c'est surtout parce qu'il est marqué pour nous, et c'est l'endroit où ont vécu tout un tas de moines. Et puis c'est des belles choses, des belles pierres, bon, très, très bien. Mais à un moment donné, il ne faudrait pas que ça devienne pour nous contraignant, quoi, que l'État nous dise, puisque vous avez un monument historique, vous êtes contraint de faire ci et ça. Alors ils le disent un peu en nous disant, il faut que ce soit ouvert à la visite, etc. Bon, ce qu'on fait, hein, bien sûr. Mais il faut qu'on puisse préserver ce qui est l'essentiel, quoi, sinon. Donc voilà, encore 5 minutes. J'essaye de tenir... Mais vous voyez qu'on est resté pour l'instant au premier millénaire. Donc, alors c'est dommage parce qu'il se passe vraiment plein de choses au deuxième millénaire et fort importantes. Mais bon, les premiers siècles aussi sont on peut pas faire l'économie, quoi. Alors donc simplement pour aller au bout de cette idée-là, c'est que les Carolingiens ont donc soutenu l'uniformisation des monastères sur la base de la règle de saint Benoît, et non seulement la règle, mais les coutumes d'un certain monastère qui était celui d'Agnan, qui se trouve, Agnan, c'est près de Saint-Guilhem-le-Désert, si vous connaissez, donc dans le sud de la France. Voilà. Et là, il y avait un autre saint Benoît, donc il avait pris ce nom, Benoît, et il est devenu saint, donc ça fait un deuxième saint Benoît, saint Benoît d'Agnan.
Vous écrivez comment, Agnan ?
A-N-I-A-N-E. En fait, Louis le Pieux, fils de Charlemagne, a utilisé donc ce saint Benoît-là, d'Agnan, et puis l'autre en même temps, en lui demandant d'enseigner ses coutumes de son monastère aux autres abbés de l'Empire, pour pouvoir faire en sorte que tous les moines aient la même façon d'être moines et d'être bénédictins. Mais à l'époque, on ne disait pas bénédictin, c'est un anachronisme. Il n'y avait que des moines. Et donc là, à ce moment-là, on veut qu'ils soient tous selon la règle de Saint-Benoît et les coutumes d'Agnan, qui sont devenues les coutumes d'Aix-la-Chapelle, puisque donc Benoît s'est transporté à Aix-la-Chapelle, la capitale. Et en fait, ça n'a pas bien marché cette fois-là, parce que l'Empire, Louis le Pieux lui-même, a eu beaucoup de problèmes. Et donc l'Empire a été finalement supprimé. Ça a marché mieux au siècle suivant, au Xe siècle, avec la fondation en 910 de Cluny. Cluny a été fondée pour suivre les coutumes d'Agnan, d'Aix-la-Chapelle, et donc pour être un monastère modèle, si vous voulez, en étant aussi exempt de l'autorité épiscopale. Donc l'évêque de Mâcon n'avait pas autorité sur les moines de Cluny, mais c'était le pape. C'est l'exemption. Donc ça, ça a existé un peu avant, mais c'est vrai qu'avec Cluny, ça devient quelque chose d'obligatoire. Voilà. Et bon, ce qui s'est passé, c'est que Cluny a ensuite soit fondé des monastères, soit remis sous son autorité des monastères déjà existants, en centralisant en fait le monachisme occidental, et en devenant ensuite... donc il y avait une abbaye, c'était Cluny, et il y avait 800 monastères qui dépendaient de Cluny, dont les moines venaient faire profession à Cluny et obéissaient au père abbé de Cluny. Alors le père abbé de Cluny, c'était pratiquement l'équivalent du pape, hein, parce que c'était tellement puissant cet ordre. Hein. Alors là, pour le coup, c'est l'ordre de Saint-Benoît. Sauf que il y avait des monastères qui n'appartenaient pas à Cluny, qui n'étaient pas sous l'autorité de l'abbé de Cluny. Par exemple, Saint-Vendry. Voilà. Donc... Donc il y avait pas mal de monastères encore qui gardaient leur tradition propre, qui étaient bénédictins, bon, qui suivaient Saint-Benoît, mais sans avoir les coutumes de Cluny. Voilà un petit peu comment on a cheminé pendant un siècle en Occident, faire une observance monastique uniforme, presque uniforme, enfin assez uniforme, mais ça restait quand même très varié, puisque... Ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui encore, c'est proverbial, c'est que les bénédictins ne sont jamais uniformisés. Hein, voilà, jamais. Par opposition aux moines blancs, c'est-à-dire les cisterciens. Hein, donc les cisterciens, 12e siècle, enfin fin du 11e, 12e siècle surtout, le siècle cistercien, Saint-Bernard, c'est une autre façon de... Alors on dit c'est une réforme bénédictine, non, c'est une autre façon de suivre la règle de Saint-Benoît. La problématique, c'est que pour être religieux en Occident au Moyen-Âge, il faut suivre une règle ancienne. Vous n'avez pas le choix, il n'y a que Saint-Benoît ou alors Saint-Augustin. Saint-Augustin, ce sont les chanoines réguliers, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple les prêtres de Montré, les Augustins, etc. Donc ce sont des religieux qui vivent sous la règle de Saint-Augustin et qui en plus donc, ont souvent un but apostolique. Parce que Cluny, tout ça, tous les autres moines bénédictins, ils ont peu à peu, ils se sont concentrés sur la prière, notamment liturgique. Pourquoi ? Parce qu'on leur a demandé, et ils ont voulu aussi, prier pour les morts en particulier. Hein, donc il y avait le partage des tâches. Ceux qui travaillent la terre, ceux qui font la guerre et ceux qui prient. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une accentuation du côté contemplatif, qui est déjà dans la vie monastique, mais qui est devenu exclusif dans leur vie. Pardon.
Excusez-moi, vous avez dit les cisterciens, c'est avec Saint-Bernard.
Bernard, voilà. Enfin, c'est pas le fondateur, hein, mais c'est celui qui a vraiment diffusés. Bernard de Clairvaux, hein, c'est pas Bernard de Cîteaux, c'est Bernard de Clairvaux. Parce qu'en fait, Clairvaux est une fondation de Cîteaux, et à partir de Clairvaux, là, il y a eu une expansion énorme, mais c'est quand même Cîteaux qui reste le centre. Alors, Cîteaux, eux, sont uniformisés, enfin uniformisés, ils ont une observance qui est la même dans tous les monastères cisterciens.
Et c'est voilà. Quoi comme caractéristique, vous avez donné celle des Saint-Augustins, enfin des Augustins,
c'est... Oui, et donc les Augustins, eux, donc, pour faire bref, donc ils prennent la règle de Saint-Augustin, qui est plus souple pour, si on veut justement, se consacrer à l'apostolat, par exemple. Hein. Voilà. Tandis que les bénédictins... eh bien, eux, ils sont du coup, vu les coutumes qui sont suivies, ils sont en effet consacrés uniquement à la prière, donc ils ne peuvent pas en plus commencer à faire prendre en charge d'autres missions. Bon, je simplifie à l'extrême, hein, mais voilà. Bon, je pense qu'il faut que je m'arrête là, ou alors, si vous voulez, on peut un tout petit peu poursuivre le développement, mais je vais être encore plus succinct pour qu'il y ait quand même un temps pour les questions. Parce qu'après, à la fin, on a jusqu'à quelle heure Parce que là, je vois, il est 4h moins le quart. Vous partez, vous allez devoir partir sûrement.
Et... 16h15.
16h15,
hein, 16h15, autant passer à la boutique quand même.
D'accord, voilà. Donc j'essaye en 5 minutes de finaliser pour vous montrer qu'il y a une évolution assez différente dans le deuxième millénaire. Donc j'ai déjà commencé en vous disant, attention, au 12e siècle... On peut dire aussi que c'est une autre branche bénédictine, mais si je dis ça, les cisterciens ne vont pas être d'accord. Parce qu'ils disent non, nous, c'est les cisterciens. Voilà, donc Cîteaux. Mais c'est quand même la règle de Saint-Benoît. Mais simplement, ils ont dit, on va essayer de retrouver vraiment la règle de Saint-Benoît. au-delà de tout ce qui a, de toute cette évolution qui est liée donc à cette prière pour le reste du monde, à cette aussi à la féodalité, puisque les moines avaient géré des domaines immenses qui leur permettaient justement de construire des très beaux monastères. Et puis, on va essayer de simplifier tout ça, on va travailler nous-mêmes, etc. Voilà. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, c'est magnifique, c'est un énorme succès, aussitôt, numériquement, culturellement, spirituellement, c'est magnifique. Mais il faut quand même bien avouer qu'un siècle plus tard, au XIIIe, sitôt et Cluny, il n'y aura pas tellement de différence, finalement, à part la couleur de l'habit. Eux blancs, nous noirs. Hein, parce que finalement, ils sont quand même rentrés dans le système... féodal, c'était quand même facile, enfin c'était trop tentant, quoi. Hein? Donc, enfin, c'est pas parce qu'ils le voulaient, mais je veux dire, c'était tellement dans la façon dont la société fonctionnait, il fallait que les moines soient spécialisés dans la prière, quoi. C'était. Mais il y a heureusement le Saint-Esprit se sert du fait que tout bouge. Au cours du XIIe siècle, vous savez, expansion démographique, les cités qui commencent à avoir beaucoup plus d'importance que les nobles, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, il va y avoir une nouvelle forme de vie consacrée qui vient plutôt du côté des Augustins. Ce sera les ordres mendiants qui sont... Alors justement, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, les dominicains, ce sont des moines, mais en même temps, ce ne sont pas des moines. Puisque nous on dit, non, les moines, c'est ceux qui ont une clôture, qui vivent dans leur clôture, quoi, qui sont contemplatifs. Alors les dominicains, justement, ils sont fondés pour aller prêcher, aller enseigner. Donc pour nous, ce ne sont pas des moines, mais ils ont quand même encore plein de choses des moines. Ils ont l'habit, ils ont le capuchon. Bon, ça, c'est, vous allez dire, c'est pas, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça compte. Et ils ont la clôture, oui, mais quitte à sortir, bien sûr. Ils ont tout l'office, alors un peu condensé, mais ils ont quand même tout l'office, l'office de nuit, 7 fois par jour, etc. Ils ont la vie conventuelle. Bref, donc ils sont quand même moines par beaucoup d'aspects, et c'est vrai que tout un chacun dit que ce sont des moines. Bon, donc, mais c'est quand même une évolution très notable. Hein. Et ils ont, par contre, ils n'ont pas de père abbé. Hein, parce que le père abbé, c'est très gênant. Parce que le père abbé, c'est forcément quelqu'un qui est nommé par les grandes familles, en fait, par cooptation, etc. Donc ça, non, c'est plutôt un fil à la patte. Et puis, de toute façon, eux, ils veulent habiter dans les villes, parce que c'est là que, désormais, tout se passe. Et voilà. Et alors, bon, par contre, ils vont insister beaucoup sur la pauvreté. C'est pour ça qu'on appelle les ordres mendiants. Bon, bien sûr, ce sont surtout les franciscains, les ordres mendiants, mais les carmes aussi. Ils sont créés pour vraiment répondre aux besoins de cette époque-là. Les cathares disent « l'Église est trop riche ». Bon, ben, on va leur montrer que non, c'est pas ça. On veut être pauvres, nous aussi. Donc, ils vont insister très fortement. La règle de saint François, c'est très grande insistance. Voilà. Et plus tard, on va se dire « mais finalement, la vie consacrée, ce n'est pas les observances monastiques ». Alors que jusqu'alors, c'était... Vous voyez, les dominicains se disaient, si on veut être consacré, il faut avoir les observances monastiques en les adaptant. Mais les jésuites vont dire, non, 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 nous, on veut être consacré sans les éléments monastiques, sans capuchon, sans... ça, je le cite toujours parce que c'est très marquant, le capuchon. Et puis, alors, pas d'office commun, en commun, au cœur. Alors, ils disent l'office parce qu'ils ont un bréviaire, mais ils n'ont pas d'office récité en commun. Et ils n'ont pas de clôture proprement dite. Ils sont directement dans le monde, ils ont des collèges, ils vont convertir les païens en Amérique, en Asie, etc. Donc là, vous voyez, une évolution ultérieure. Donc ce sont toujours des religieux, ils font toujours des vœux, pauvreté, obéissance, chasteté. Mais et donc ils ne sont vraiment plus des moines là pour le coup. Hein.
Alors, ça arrive en quelle période ça, les jésuites?
Ah oui, les jésuites, c'est le 16e siècle.
Et les franciscains?
Ouais. Franciscains, c'est le 13e. Oui. Ça se diversifie de plus en plus, parce que pendant ce temps-là, les moines continuent d'exister, et les franciscains aussi, tout ça. Donc on garde les anciens, et on en fait des nouveaux. Voilà. Et alors, pour vraiment terminer, au 20e siècle, on a l'apparition de ce qu'on appelle justement la vie consacrée, parce qu'on ne parle plus du coup de vie religieuse, parce que pour la vie religieuse, même les jésuites, tous les ordres religieux, ils font des vœux publics, c'est-à-dire qu'ils s'engagent publiquement devant l'Église à respecter leurs vœux. Hein. Et donc, finalement, ils sont un peu chargés d'être représentatifs de cette vie chrétienne, de cette vie... voilà. Donc on leur demande un petit peu de témoigner, mais de cette façon spécifique, qui est de vivre les trois vœux. Hein, quelle que soit la façon, si c'est contemplatif ou actif ou autrement. Mais la vie consacrée, ce qu'on appelle les instituts séculiers, alors là, ils vont vivre l'obéissance, la chasteté, la pauvreté, mais en vivant une vie ordinaire, et en ne faisant pas ce qu'on appelle des vœux publics, mais des vœux privés. C'est-à-dire que finalement, là, eux, ils vont se fondre dans le paysage, ils n'auront pas à apporter ce témoignage d'une existence fraternelle en communauté, etc. Hein? Donc c'est le dernier avatar, si je puis dire, de la... C'est pour ça que maintenant on parle de vie consacrée, parce que dans leur cas, on ne parle pas de vie religieuse, même si c'est une vie encore plus exigeante, bien sûr, que celle des moines, puisqu'ils sont censés avoir cette vie spirituelle intense, ces mêmes renoncements, mais tout en étant enseignant, médecin, et tout.
Alors, c'est les fraternités de Jérusalem, c'est...
Alors, fraternité de Jérusalem, ça, c'est une espèce de vie monastique, quand même, et ce sont des religieux, de toute façon. Non, justement, alors, les instituts séculiers, on ne les connaît pas tellement, à cause du fait qu'ils sont pas, ils sont invisibles. Hein, alors, vous avez dans Notre-Dame de Vie, si vous connaissez, à Vénasque, fondée par le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, au XXe siècle. Hein. Alors, il y a aussi Madeleine Delbrel, si ça vous dit quelque chose, donc, qui a vécu ainsi parmi les communistes à Ivry. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qui, ils sont numériquement pas très forts, mais qui a quand même son importance, parce que ça veut dire qu'on pousse jusqu'au bout la logique, hein, de cette consécration, du fait de vivre pour Dieu et pour les hommes aussi, en vivant cela vraiment d'une façon... c'est pas caché pour se cacher, c'est pas une société secrète, mais c'est en même temps en étant le plus proche possible de la vie normale, quoi, pour montrer que finalement, la vie chrétienne elle-même est aussi une forme de consécration, finalement. C'est ça qu'on peut aboutir. Voilà, bon, vous voyez, j'ai pas réussi à tenir le timing...
Les frères de
Saint-Jean, ce sont des religieux, et dont, comme ça, extérieurement, c'est presque des moines, mais c'est plus proche des dominicains, en fait. Hein. Ce ne sont pas des moines au sens strict. Par contre, ils ont une branche contemplative, mais qui a eu des problèmes récemment, de sœurs contemplatives. Parce que chez les dominicains, justement, Saint-Dominique a fondé, je crois, d'abord des sœurs contemplatives. Parce qu'il a dit, vous, mes sœurs, vous priez pour les frères. Qui, eux, vont chez les cathares et un peu partout, et à l'université, etc. Mais de façon première, les dominicaines étaient contemplatifs. Puis après, il y a eu la branche apostolique de là. Et donc, c'est vrai que le fondateur des Frères Saint-Jean, étant un dominicain, il a eu tendance à reproduire la même chose dans sa fondation. Mais c'est vrai que même les dominicains... Un dominicain me disait que... En fait, chaque dominicain sait qu'il a une communauté ou une sœur qui prie pour lui. C'est toujours aujourd'hui encore.
Merci, frère, pour cette...